Du jeudi 12 au samedi 14 septembre, suivez les ondes de la Grenouille avec Cuisine en Friche. Émission transmédia avec Chez Albert de 20h30 à 22h en public et en direct des grandes tables sur la thématique du street food.
À table, on mange !
À l'occasion de Cuisine en Friche.
Bonsoir à tous et entrez donc, vous êtes chez Albert, enfin presque, puisque nous sommes attablés au restaurant Les Grandes Tables à la Friche Belle de Mai. Albert, comme son nom ne l'indique pas, est un collectif d'authentiques journalistes de la pire espèce basé à Marseille. Albert, comme son nom ne l'indique toujours pas, dispose d'un site internet où sont racontées les aventures de ses journalistes. En voici l'adresse, www.chez-albert.fr. Et comme le savent déjà les fidèles de Grenouille, chaque mois, Albert propose sur les ondes une émission d'actualité. Vous pouvez d'ordinaire nous écouter le dimanche matin à 10h, mais ce soir, Albert a sorti son service en porcelaine des grands jours, mis les petits plats dans les grands, pour une émission spéciale et en direct. Spéciale parce qu'en plus de pouvoir l'emporter chez vous en réglant les 3-8 sur votre bande FM, vous pouvez aussi nous consommer sur place, à la Friche, et on remercie d'ailleurs le public qui nous fait le plaisir de partager ce repas sonore avec nous. Bon appétit si vous êtes en train de dîner, c'est notre cas et celui de beaucoup de monde ce soir à la Friche, puisque depuis mardi, toques et toquets de bonne bouffe se bousculent au fourneau à l'occasion du festival Cuisine en Friche. Cuisine en Friche, ce sont des spectacles, des repas, des démonstrations de chefs et des débats autour du contenu de nos assiettes. Pas d'assiettes sur notre table pourtant ce soir, mais tout un tas de petites choses plus appétissantes les unes que les autres. Allez-y, servez-vous. Il sera en effet question de street food dans cette émission, traduisée de nourriture de rue, celle qu'on mange sur un coin de trottoir, sur un banc ou juste debout au comptoir. Bonsoir Frédéric Legrand.
Bonsoir.
Finis ce que tu as dans la bouche peut-être.
Un petit coup de pizza, pardon.
Tu es journaliste chez Albert, Albert qui a consacré l'un de ses feuilletons en plusieurs épisodes à cette tendance de la street food.
Tout à fait, alors chichi de l'estac, fricassé tunisien, fish and chips amélioré, notre confrère Clément Barraud a effectivement tout goûté des plats anciens et modernes de la nourriture de rue, aussi bien à Marseille qu'au Maghreb. Au terme de ce marathon stomacal, Albert vous confirme que la bouffe de rue est partout en ville, sous toutes les formes et pour toutes les bourses, mais gros bémol, les nouveaux food trucks qui arpentent déjà les trottoirs de New York ou de Los Angeles ont encore du mal à s'installer dans notre belle France. Derrière ce phénomène, Albert a identifié de son œil d'aigle des enjeux économiques, culturels, diététiques et, n'ayant pas peur des mots, carrément politiques ou philosophiques.
Et pour se mettre en appétit, je vais tout de suite vous faire le plan de table et vous présenter nos invités. Bonsoir Valentine Leys. Alors, on va peut-être vous faire passer
un micro. À chef.
Le voici. Vous êtes chroniqueuse pour le magazine gastronomique marseillais La Brousse. C'est un trimestriel sur les gens et les goûts de Marseille. Vous nous en détaillerez le menu tout à l'heure. Honorine Daudet, bonsoir. Vous êtes diététicienne et vous travaillez pour le CODES 13, qui est le comité départemental d'éducation pour la santé. C'est une association qui met en œuvre des actions de promotion et d'éducation pour la santé. On en reparlera tout à l'heure aussi. Attablé également avec nous Fabien et Sherazade Rugy. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors vous êtes restaurateur, votre restaurant La Boîte à Sardines est situé au Réformé, mais vous êtes aussi à l'origine du fish and chips marseillais que vous proposez dans votre camion bleu. Les Marseillais l'ont peut-être déjà vu stationner devant les festivals ou les théâtres. Près de vous, nous accueillons Daniel Majonchi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez créé, qui est venu accompagner ce soir. Vous avez créé le Leaders Club, c'est une association qui regroupe les leaders de la restauration européenne et leurs partenaires. Et vous êtes aussi l'un des fondateurs de l'association Street Food en Mouvement, qui réunit des professionnels de la street food et qui a pour objectif le développement de ce concept en France. Alors vous nous expliquerez comment tout à l'heure. Et face à Frédéric Legrand, donc le journaliste chez Albert que je vous présentais tout à l'heure, nous trouvons également Lagachon. Bonsoir Lagachon.
Bonsoir.
Alors, tu es chroniqueur attitré d'Albert et si vraiment on insiste, tu peux devenir chercheur en marketing territorial comme dans la vraie vie. Près de moi, les fines oreilles, derrière moi, les fines oreilles de Grenouille reconnaîtront la voix d'Emmanuel Moreira, journaliste pour la radio. Bonsoir Emmanuel, est-ce que tu as un micro ?
Bonsoir.
Alors tu dois à moi. Alors tu vas nous expliquer le dispositif mis en place autour de cette émission.
Voilà, alors émission spéciale, dispositif spécial. Dispositif spécial avec Renaud Verset, ici présent, qui est réalisateur multimédia et qui va tout au long de cette émission alimenter à travers des images, des vidéos, le contenu de la discussion. Il sera accompagné à la technique par Sébastien. Et puis, chers auditeurs, chers publics, je vous invite à vous équiper de vos smartphones et à vous connecter sur Twitter, car tout au long de cette émission, vous pourrez poser des questions aux invités ici présents sur la table, réagir et commenter en utilisant le hashtag Cuisine en friche. Donc tout au long de cette émission, nous pourrons relayer les questions des auditeurs et du public.
Merci Emmanuel. Et pour clôturer ce tour de table, sauf erreur sur mes fiches, je suis Stéphanie Arougnan, journaliste chez Albert.
Émission transmédia avec chez Albert de 20h30 à 22h en public et en direct des grandes tables à l'occasion de Cuisine en friche.
Fast-food, une nouvelle façon de se nourrir à la française avec deux décennies de retard sur les États-Unis. Le hamburger commence à entrer dans les habitudes alimentaires ou plutôt dans une façon de vivre. Le repas familial n'est plus sacro-saint, place maintenant au repas pratique.
Alors nos invités vont peut-être commencer à grignoter les échantillons de street food très améliorés hein, qui sont installés sur la table. On reviendra plus tard sur ce qu'on nous a préparé. Pour l'heure, nous allons débuter ce débat par l'entrée, tiens, en tentant de définir ce que l'on entend précisément par nourriture de rue, Frédéric.
Alors c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une filiale de l'ONU, qui a défini ce qu'est la street food. Alors, la street food, je vais essayer de vous le dire en français parce que le document est en anglais. La street food, ce sont des aliments et des boissons qui sont préparés et ou vendus par des vendeurs dans la rue et dans d'autres places publiques pour une consommation immédiate ou pour une consommation ultérieure sans aucun procédé de préparation supplémentaire. Donc, cette définition est assez précise et en même temps assez large, c'est-à-dire que par exemple, elle ne précise pas que la nourriture de la street food est forcément vendue dans des emplacements mobiles ou dans des emplacements fixes. La définition de l'OMS est assez large de ce côté-là. Alors, l'association Street Food en Mouvement avait réalisé un livre blanc sur la street food qui indiquait que les premiers indices de street food en Europe remontent au Moyen-Âge, puisqu'on mangeait beaucoup à l'époque dans les étals de rue et dans des étals qui étaient mobiles. Après, il y a eu une certaine évolution qui, à Marseille, a donné lieu à une création célèbre, mais on en reparlera tout à l'heure. Peut-être une première question pour nos invités. Votre premier contact avec la street food, c'était comment et est-ce que c'était bon? Valentine Leys, peut-être pour commencer de la brousse.
Moi, j'ai reçu une éducation très... Mes parents tenaient un terrain de camping. Et donc j'ai été élevée à la merguez, et donc la merguez, bon alors c'est le barbecue, hein, c'est une autre pratique, mais c'est une pratique, en tout cas on m'a élevée dans la méfiance de la merguez, on m'a élevée dans la méfiance de la frite, il fallait un petit peu faire attention et se protéger contre ces aliments-là. Et donc c'est quelque chose après auquel je suis venue plus tard, en sortant le soir, en ayant une vie un peu moins sage, et donc... Pour moi, voilà, la cuisine de rue, c'est quelque chose qui va avec la vie nocturne et la fête et quelque chose comme ça.
Donc c'est plus une occasion que véritablement un goût, en fait. C'est quelque chose qu'on mange quand on sort, en fait.
Oui, et par extension un goût. C'est vrai que le meilleur kebab, c'est le kebab qu'on mange la nuit quand on a faim et quand on sort, et il est délicieux. Donc c'est l'occasion qui fait le larron un petit peu plus que le produit en soi.
Alors Fabien Rugy, Sherazade Rugy, vous êtes restaurateur à la boîte à sardines et au fish and chip marseillais. Vous, votre premier contact street food, c'était quoi? Est-ce que ça vous a marqué dans un sens mauvais?
Ben, moi, en tant que marseillais, le premier street food, c'est Camion à pizza.
Plus près du micro, peut-être.
Plus fort?
Ouais, voilà.
Alors, je vais essayer plus fort. Alors. À Marseille, nous, le street food... Le street food, alors on n'appelait pas ça street food il y a 20 ans ou 30 ans. Par contre, on mangeait dans les camions devant le stade des pizzas. Donc, très bon souvenir.
Très bon souvenir, à la fois sur le goût et sur le moment où c'était mangé.
Ouais, tout à fait.
Honorine Daudet, votre premier souvenir, c'était pareil, merguez frites devant le stade ou c'était autre chose?
Non, moi, je crois que je vais mettre les pieds dans le plat parce que mon premier souvenir, ça doit être adolescent. un bon petit fast-food avec les amis à l'extérieur. Donc ça, je crois que c'est le premier souvenir. Street food, fast-food.
C'était un fast-food de marque, c'était une franchise, c'était un McDonald's.
Ouais, sûrement rouge et jaune, ouais.
Ça être, à l'époque, c'était américain
avec
déjà.
Quelque chose comme un M pour marquer l'entrée, ouais. Ouais, voilà.
Qu'on voyait bien loin.
Et c'était pour l'envie de faire comme aux États-Unis ou c'était.
Je pense que c'était l'envie de se retrouver, que peuvent retrouver aussi les jeunes d'aujourd'hui, et ce qui fait que ça continue encore cette façon de consommer, que ça se développe de plus en plus aussi. C'est une façon de se retrouver à la base quand on est jeune, et puis après on continue, je pense aussi, comme vous disiez, quand on vieillit, et même tout au long de la vie, quoi, ça s'adapte au fur et à mesure.
C'est une fois qu'on a pris l'habitude, on n'en sort plus. L'animal en chive, ou votre première expérience?
Alors, je ne sais plus si c'était la première, mais en tout cas, c'était à peu près à la même période. Elles étaient, on va dire, triples. C'était probablement à Marrakech, sur la place Jemaa el-Fna.
Ah oui, déjà. Donc plus exotique.
Voilà, c'est exotique. Encore exotique, c'était aussi du côté de New York, les stands de hot dog qu'on trouvait dans la rue. Donc, dans les deux cas, c'était l'intérêt pas cher du tout, hyper pratique. Et puis, bon, je ne me posais pas la question, un petit peu quand même, à Marrakech, est-ce que c'est hygiénique? Mais comme je voyais quelque part des. Et puis, en plus, on nous disait à l'hôtel, vous allez dans le stand 42, vous allez au 24, vous pouvez. Mais c'est vrai, quand on voit les escargots, c'est peut-être un peu limite. Et à la même époque, je suis allé, ça m'a frappé, à Pompéi. Et effectivement, j'ai vu, alors évidemment, je n'ai pas testé, mais des échoppes de restauration de rue où on voyait bien qu'à l'époque, c'était, il n'y a pas de restaurant, ce sont des échoppes où on consommait dans la rue. Ça, c'était assez rigolo. Et puis après, je suis en train de voir déjà des images de l'INA derrière, là, les premiers fast-food où on dit on avait 20 ans après l'Amérique, on découvre le fast-food. Et c'est bizarre parce que je suis rentré en restauration en 71 et j'ai reconnu des têtes, des enseignes qui n'existent plus depuis longtemps. Et c'était de la restauration rapide qui ne se mangeait pas trop dans la rue à l'époque, hein. On disait non, jamais les Français ne mangeront dans la rue. Et je me souviens, quand le premier Quick a ouvert à Aix, un drive-in, on a dit mais ils sont
fous. Dans quelle année ça?
C'était en 73 ou 14. Et on a dit ça marchera jamais, le drive-in. On n'est pas en Amérique, on ne mange pas dans sa voiture. Évidemment, ça ne marche jamais le driving. On les trouve même maintenant faire ses courses dans le driving.
Parce qu'évidemment, on en parle comme d'une nouvelle tendance, la street food, enfin, en tout cas d'une tendance en pleine explosion. Mais comme vous le rappeliez en citant Pompéi, je ne pensais pas que ça allait jusque-là, mais c'est très ancien. Surtout alors en Méditerranée, peut-être. On l'a vu Clément dans le sujet qu'Albert a consacré au sujet, on parle beaucoup. Lagachon, tu voulais intervenir?
Oui, non, rapidement. Ce n'est pas le premier souvenir que j'ai, mais j'ai un souvenir de tacos au Mexique où on m'avait dit fais attention. Bon, j'ai pas fait attention.
C'est dangereux le taco, c'est très dangereux. C'est
il faut pas. Voilà, s'il y a un petit message conseil pour ceux qui nous écoutent, faites attention.
Alors, on va pousser. Peut-être Valentine voulait dire un mot, non?
D'accord.
Alors, on va
la fin, peut-être.
On va pousser un petit cocorico ou un cri de gabion. C'est selon. Marseille a été pionnière dans un des trois grands piliers de la street food, le camion à pizza. Alors, à ce sujet, on écoute le président de la Fédération nationale, s'il vous plaît, des artisans pizza en camion magasin.
C'est un Marseillais, M. Jean Méritant, qui a 50 ans déjà, puisque c'est le 50e anniversaire cette année, a eu cette idée folle de mettre dans un camion, faire une cuisine dans un camion et fabriquer des pizzas pour aller les vendre au pied des gens, au pied de leur immeuble, quoi, pour s'exporter dans les quartiers. Naturellement, il n'y avait jamais eu de four pour cuire une pizza dans un camion, bien entendu. Il avait mis le four sur une remorque. Le camion, il avait fait une espèce de cuisine intégrée. Et la première chose qu'il faisait, quand il arrivait sur son emplacement, il décrochait la remorque où il y avait le four à pizza. Parce qu'il s'était dit, oui, si ça prend feu, moi je m'en vais à mon camion et je laisse tout là. Et ce phénomène s'est amplifié. Il a vite couvert tout le territoire marseillais et il a tout de suite débordé. Il faut se rendre compte qu'une ville comme Brest, il y a 19 camions en Brest.
C'était Luc Garcia, artisan pizzaïolo. Et on rappelle que demain soir à la Friche, dans la cour Jobin, à partir de 19h, de nombreux camions pizza marseillais sont attendus aux côtés des chefs de gourmets méditerranéens avec des DJ pour assaisonner tout ça. Donc vous avez toutes les infos sur le site de la Friche. Frédéric.
Alors juste pour préciser que, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, le premier camion à pizza aurait été historiquement un ancien camion à salade de police qui aurait été reconverti. C'était le vieux modèle de Citroën, donc voilà, il y a eu une transition de la police vers la pizza. Peut-être une question sur l'explosion du phénomène food truck qui là est très spécifique et a commencé aux États-Unis. Visiblement, on atteint maintenant dans des villes comme New York ou Los Angeles des excès où il y a des files d'attente kilométriques.
À San Francisco aussi, le long des rues. Ouais.
Et voilà. Daniel Majonchi, vous aviez suivi un petit peu ce phénomène. Comment il s'explique ? D'où est-ce que sort ce phénomène food truck aux États-Unis ?
Extrêmement simple. Déjà, un tout petit peu d'histoire. C'est la troisième vague de la restauration nomade. Food truck étant un peu centré sur le camion. Mais il n'y a pas que le camion, il y a évidemment le stand, il y a le triporteur, il y a le vélo, et puis il y a les stands que l'on transporte sur le dos. Alors aux États-Unis plus spécifiquement, première vague, c'était juste au moment de la conquête de l'Ouest, après la guerre de sécession.
En carriole, là, pour le coup.
En carriole, absolument. Après la guerre de sécession, on récupère, et ça c'est important parce que c'est chaque fois la même chose, on récupère les cantines de l'armée, qui était alors tout à fait sommaire. Et ces cantines-là accompagnent ceux qui vont aller à la conquête de l'Ouest, et notamment ceux qui construisent les voies de chemin de fer. Et pour les nourrir, évidemment, par définition, il n'y a pas encore de McDonald's et de restaurants tout au long des routes. Donc quelques entrepreneurs disent, eh bien, on va racheter les carrioles de l'armée, les cantines de l'armée, et puis on va apporter et suivre les ouvriers et leur servir à manger au fur et à mesure. Ça, c'est la première vague. Après, bon, ok, tout ça se développe. Deuxième vague, la crise de 29. Crise de 29, des tas de gens se retrouvent à la rue, donc sans boulot. Or, chacun sait ici, quand on ne sait pas quoi faire comme métier, on devient restaurateur.
Ça ne va pas plaire à tous les restaurateurs. Quand même.
Alors, marchand de frites, entre guillemets. Donc, crise de 29, phénomène, on se retrouve au chômage. Qu'est-ce qu'on fait, notamment aux États-Unis, on devient entrepreneur. Et qu'est-ce qu'on rachète ? On rachète des vieilles caravanes. Alors maintenant, c'est la mode des caravanes Airstream qu'on trouve un petit peu partout. Et surtout, on achète aussi des vieux wagons, tout simplement parce qu'une législation locale, enfin pas locale, américaine, disait « Vous n'avez pas besoin d'une licence, qui n'est pas tout à fait la licence d'alcool, mais en tout cas une licence de restaurateur, si votre local pour faire votre business est sur roue, il est mobile. » Donc forcément, on achète une caravane, on achète un camion, et il garde les roues, et on n'a pas besoin de licence, et du jour au lendemain, on se retrouve entrepreneur.
Donc c'est à la fois un goût de la mobilité, entre guillemets, américain, ouais. Et puis aussi juste une disposition légale dans laquelle s'engouffrent, en fait, des entrepreneurs.
Exactement. Alors troisième vague, celle dont on parle aujourd'hui, clairement, l'explosion de ce qu'on va appeler, si vous le voulez bien, la néo-street food ou le néo-food truck, commence très précisément en septembre 2008,
ah oui,
la grande crise. Qu'est-ce qui se passe ? La grande crise financière fait que tous les programmes immobiliers aux États-Unis de création sont gelés. Or, qu'est-ce qui se passait exactement comme au temps où on allait développer les voies ferrées, etc. Eh bien, les chantiers s'arrêtent. Comme les chantiers étaient accompagnés systématiquement de camions hyper équipés, qui n'étaient pas des food trucks, qui étaient, il n'y avait pas d'enseigne, rien, c'était des restaurants avec, enfin des camions bien équipés avec du froid, du chaud, etc. etc. Ceux-là, ils ne trouvent plus de business, donc ils sont à vendre des queues de cerises. Et dans le même temps, les traders qui se retrouvent licenciés vont plus au restaurant. Donc la restauration haut de gamme commence à plonger. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne va pas bien dans une économie extrêmement libérale ? On licencie. Donc le chef de cuisine éventuellement reste, le sous-chef se retrouve sur le carreau. Le sous-chef n'a pas suffisamment d'argent pour se payer un restaurant, n'a pas le temps d'en chercher un. Il voit des camions disponibles, il les achète trois queues de cerises. Et on peut dire que le premier est arrivé quelque part vers novembre-décembre 2008 à Los Angeles.
Précis, ouais.
Voilà, c'est extrêmement précis. Il y en avait d'autres avant, bien évidemment. Mais ça a été le début. Et parce qu'il y a un troisième phénomène qui est arrivé en même temps. Alors, ce camion faisait de la restauration coréenne à Los Angeles. Mais vous faites de la restauration mobile, comment les clients vous connaissent ? Sauf que, souvenez-vous,
c'est
à ce moment-là, et évidemment, Facebook commençait déjà à exploser, et surtout, Twitter apparaissait. Les premiers tweets apparaissaient. Donc c'est le premier à dire, ben voilà, vous aimez ma nourriture, je viens qu'une demi-heure chez vous, donnez-moi votre adresse tweet, et puis évidemment, forcément, je vous informe que je suis là de telle heure à telle heure, complet du jour à ça. C'est comme ça que ça a démarré aux États-Unis.
Donc c'est plus une question économique que uniquement de goût. Fabien et Sherazade, vous êtes lancé dans l'expérience Fish and Chip, qui est un camion qui fait du fish and chip adapté à Marseille. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'aventure ? C'était l'exemple américain ?
C'était l'inverse. Vous aviez déjà
le restaurant avant, on précise, pour ceux qui ne connaissent pas encore la boîte à sardines.
Fabien avait déjà son restaurant. travaille simplement, donc le restaurant est ouvert le midi simplement. Et le soir, il allait un peu au gré du vent et des événements, surtout, dans la ville. Et il transportait un petit peu son savoir-faire, ainsi que celui de Céline, qui est la cuisinière de Fabien.
Et vous étiez déjà mobile, en fait, sans avoir l'enseigne, quoi, si je peux dire.
Il travaillait dans beaucoup de théâtre. Il est venu ici à la Friche plusieurs fois. Et c'est là que le fish and chip marseillais est né, d'ailleurs. C'est ici, à la Friche.
On expliquera tout à l'heure ce qu'il a de marseillais, ce fish and chip.
On vous expliquera plus tard. Voilà. Donc en fait, non, ça n'avait rien à voir avec ce mouvement-là. Du reste, pour être très honnête, on n'était pas tout à fait au parfum concernant ce mouvement-là. On a découvert après coup que finalement, on avait intégré...
Vous faisiez partie sans le savoir,
voilà,
en fait.
Voilà, tout à fait, exactement. Voilà.
Alors, pour cette année 2013, il y a aussi un autre grand mouvement de street food qui est les grandes carrioles de la Friche. On va écouter Christian Ernst, qui est le chef du Rowing Club Marseille, qui lui fait partie de l'aventure, qui nous explique un petit peu son arrivée dans cette aventure avec la rencontre avec Marie-José Ordener et Pierre Berthelot de Générique Vapeur.
Comme je venais de me séparer de mon restaurant, donc j'ai rencontré Marie-Jo Ordener au Grand Tap, puisqu'elle m'a prêté ses cuisines pour que je puisse réaliser le repas. Et quand il y a eu ce projet des grandes carrioles, elle m'a dit, écoute, on a vraiment pensé à toi. Mon idée, c'était de faire un produit issu de la Méditerranée, puisque j'étais le seul chef de Marseille à avoir une carriole, donc je voulais absolument revendiquer mon terroir. Donc on a choisi de faire un Saint-Pierre fumé au pain de Provence, avec un cornet craquant de chantilly, à la coriandre ou à la et poutargue. Voilà, ça c'était mon plat. Et donc avec Pierre, on a imaginé une scénographie autour de la fumée et un design autour de la fumée et du feu. Il y a quand même un poisson entre guillemets de luxe, mais l'idée c'était de le populariser en faisant des portions de plats avec une forte identité qui ne dépasse pas les 4 euros. Ça c'est un pari qu'on a réussi à faire, de populariser et de désacraliser la gastronomie, de la mettre à la portée de tous au milieu de nulle part.
Alors, Valentine Lais...
On va peut-être juste rappeler que c'était Christian Ernst du Rowing Club, donc au volant de sa carriole. Pardon, allons-y Frédéric. Oui.
Valentine, j'imagine qu'à la brousse, vous avez suivi un petit peu l'expérience des grandes carrioles. Comment vous voyez ça? Est-ce que les premiers essais ont été fructueux? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent s'améliorer? Quel regard vous portez là-dessus?
Moi, j'ai eu un été un peu difficile que j'ai passé à courir après les carrioles, en fait. Parce que je voulais vraiment essayer tous ces différents chefs. C'est pas
elles sont toutes là-haut ce soir. Donc,
Je suis très contente, mais du coup, je suis coincée à cette table et c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que c'est une super occasion d'essayer à des prix super abordables le travail de chefs qui sont excellents, qui sont parmi les meilleurs à Marseille et dans la région. C'est un très beau projet. Mais je compte plus le nombre de fois où les carrioles figuraient sur le programme d'un événement et où je suis arrivée et où je les ai pas trouvées. Donc,
notamment le soir de l'ouverture de Marseille 2013, théoriquement elles devaient être en centre-ville et puis on a eu du mal à les trouver.
Oui, ou par exemple je suis allée à la nuit Pastrée qui était ce très bel événement à Campagne Pastrée, j'ai failli mourir de faim, j'avais que mon poing à manger et j'ai fini par sortir manger, trouver un camion à pizza finalement et manger une pizza. Mais bon, je me réjouis là, à l'occasion de Cuisine en Friche d'essayer les carrioles.
Ouais, du coup, parce qu'on rappelle que sur notre table, entre autres gourmandises, nous avons donc des petites verrines concoctées par la carriole des grandes tables.
Alors, sur cette question, Emmanuel avait peut-être une petite question à nous
faire. Ah, question tweet.
Ah, voilà.
Emmanuel, un tweet pour nous.
Exactement, sur donc, le hashtag Cuisine en Friche, après de nombreux commentaires qui ont été donnés sur votre conversation, il y a un tweet de Pau Cléodule qui s'interroge sur le prix des grandes carrioles. Et d'une manière générale, j'imagine que derrière, c'est la question aussi de savoir si les food trucks sont d'une manière générale économiquement moins chers que le restaurant.
Alors, peut-être là-dessus, on va interroger Fabien ou Sherazade du Fish and Chip.
Vous qui avez les deux.
Alors, moi qui ai les deux.
Alors, faut vraiment tenir le micro à l'horizontale, sinon, si tu fais le hip-hop, ça marche pas.
Ça
marche pas du
mais
tout.
Mais après, oui, par contre.
Ouais, là, ça marche pas.
Ça marche pas. Bon, en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, je fais le Fish and Chips au resto et dans le camion. Après, vous êtes assis à table, vous mangez pas les mêmes doses que quand vous êtes debout. Donc déjà, ça ne peut pas être le même prix. Moi, je parle pour mon fish and chips. Mais après, avant de faire le fish and chips, par exemple, je travaillais avec des théâtres. Bon, j'allais devant des théâtres, je vendais des huîtres.
J'ai vendu des huîtres, j'ai fait des calamars, toujours avec des produits de chez nous, parce que je défends toujours les couleurs méditerranéennes. J'ai toujours essayé de faire des prix les plus bas possibles, puisqu'en fait, vous avez un minimum de charges. On est d'accord, vous avez moins de charges qu'un restaurant, donc c'est logique.
On y reviendra, ouais, c'est en dernière partie, l'aspect économique. Quoi.
En théorie, un produit que vous mangez en street food, donc dans un camion ou, dans, comme vous avez dit, une carriole, et le même produit dans un resto, forcément, dans le camion, il doit être moins cher. C'est logique. À la base, oui.
Alors, on va revenir en troisième partie d'émission plus en détail sur ces questions économiques qui sont au centre de l'activité street food. On va maintenant...
Moi, j'avais juste une question par rapport au tarif. Vous dites que le tarif du produit, lui, est différent, mais est-ce que toute la logistique autour en termes de personnel, ou là aussi, est réduite ? Il n'y a pas que les coûts de la matière que vous avez réduite en camion.
Ben après, la différence, c'est qu'au restaurant, par exemple, ce midi, j'ai fait 60 couverts et seul, je ne peux pas les faire. C'est impossible à faire 60 couverts seul. S'il y en a un qui sait les faire et qui vient au resto, je l'embauche de suite. Par contre, 60 personnes dans un camion, vous pouvez les faire seul.
Ouais.
Donc c'est plus pareil.
On y reviendra tout à l'heure en dernière partie d'émission.
Émission transmédia avec chez Albert de 20h30 à 22h en public et en direct des grandes tables à l'occasion de Cuisine en Friche.
You know what they call a quarter pound of cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?
What?
Mayonnaise. I seen him do it, man. They fucking drown him in this shit. Yeah.
Alors face à nous sur l'écran des grandes tables du côté de la friche Belle de Mai où nous nous trouvons ce soir et en direct sur Radio Grenouille, il y a débat aussi entre John Travolta et Samuel Jackson, leur théorie du burger et de la mayo dans les frites ou pas, est tirée bien sûr du cultissime Pulp Fiction. Une mise en bouche parfaite pour entamer le plat de résistance de notre discussion sur la street food. Vous êtes toujours chez Albert et on est toujours en plein repas sur le plateau. Allez-y, hein, c'est pour vous. Peut-être le public aussi peut venir goûter. Au menu, nous avons donc des mésés, un sandwich dont on déterminera la provenance tout à l'heure et des détails peut-être, Frédéric, sur ce que nous a préparé la carriole des grandes tables.
Alors, on a quelques mezzés, on a aussi un shawarma qui est en train de faire le tour de la table. On avait aussi une pizza dont la provenance n'est toujours pas connue à 7 heures. Donc, peut-être quelques retours de nos invités sur ce que vous avez mangé. Est-ce que ça vous a plu ? On va commencer par les professionnels ou peut-être Honorine Naudet qui peut peut-être... que je surprends en train de manger, je suis désolé.
Alors qu'est-ce que c'est ça ?
J'essaie de déterminer ce que c'était. Je crois que c'est des noix,
c'est
un crumble. Un crumble de noix peut-être ? Avec des tomates cerises. En tout cas, c'est
gras ça.
En tout cas, c'est de saison. Et les noix, même si elles ont l'air grasses comme ça, elles sont super bonnes pour la santé. Le gras, c'est pas du tout diabolique, attention, hein, faut
il y a
manger.
Plusieurs types de gras. Hein,
ouais, surtout les noix, ça c'est bon.
Alors ça c'est pas mal de le dire aussi, vous savez, parce qu'on a souvent tendance à assimiler très souvent ce qui se fait dans la rue, en tout cas avant cette nouvelle tendance qui au contraire joue peut-être plutôt sur le goût, mais pour la street food d'adolescents en tout cas, c'est le shawarma que nous avons ici, ou le McDo, ou que sais-je, c'est très souvent associé au gras, et pour les parents, un peu comme ceux de Valentine, c'est le mal absolu quoi.
Alors justement, peut-être Valentine, sur le shawarma, elle est en train de le goûter.
elle peut jamais manger, elle l'a dit tout à l'heure. Il faut la laisser finir.
Manger en parlant de nourriture, mais c'est un sport et on y arrive. Hein. Mais je suis en train de goûter le shawarma et je le trouve pas mauvais du tout. Je trouve qu'il a bon, il y a les frites dedans. Il y a deux écoles. Il y a la frite à côté, la frite dedans. Là, c'est la frite dedans et finalement, c'est bien parce que tout
c'est plus facile à manger.
C'est plus facile à manger.
On va le faire goûter au public aussi, tiens.
Et puis surtout, il y a une vraie sauce. Finalement, il y a une vraie sauce avec du vrai sésame dedans. Il a l'air plutôt... Moi, je dirais que c'est plutôt un bon... Il y a des petites herbes. J'ai même trouvé un petit bout d'une petite herbe, un petit bout d'une petite tomate. Je sais pas...
C'est un shawarma du 8e.
Alors, on ne sait pas où il a été pris, ce sera la réponse mystère en fin d'émission. On vous dira où ont été achetés les produits, parce que pour le moment, on ne sait pas.
C'était une hypothèse.
Alors, Fabien et Sherazade, je vous ai vu goûter la pizza, verdict.
Moi, je ne suis pas trop pizza, donc mille excuses au camion de pizza. Par contre, j'adorais le shawarma également, qui était particulièrement bon. Certes gras, comme on peut l'imaginer, mais très très bon. Voilà, la pizza, peut-être pas. Fabien en parlera.
Fabien sur la pizza, peut-être
Ouais, pas de problème.
Personnellement, moi j'ai goûté la pizza aussi, je la trouve vraiment pas mal non plus quand même.
Alors, Daniel Majon, le shawarma, c'est quand même un grand classique de la rue, depuis toujours, de la street food. C'est un historique pour le coup.
Non seulement c'est un historique, mais il semblerait qu'aujourd'hui, le nombre de points de vente en France de shawarma ou de kebab est dépassé celui de pizza, il semblerait. Je suis très étonné. Mais ça représenterait pratiquement 14 ou 15% du nombre de points de vente.
Mais d'où viennent ces statistiques? Parce que est-ce qu'on a des statistiques du ministère de l'économie
non,
sur le nombre de shawarma français?
Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune statistique. C'est très compliqué. On verra d'ailleurs pour la street food, parce que s'il y avait des codes NAF communs, il n'y a pas. Mais bon, apparemment, il y a un certain nombre de cabinets d'études qui étudient tout ça. Mais il y a surtout les vendeurs dans les salons qui produisent de la nourriture, on va dire, entre guillemets, industrielle pour les kebabs. Et là, j'ai été très étonné de voir le nombre de kebabs qu'ils identifiaient quand on compare avec les quelques 140 000 restaurants. On arrivait à ce chiffre-là. Alors celui qu'on vient de déguster, il n'a rien à voir avec celui que l'on consomme habituellement.
Alors Valentine,
et il faut dire aussi que de même qu'on a vu récemment apparaître des chaînes de hamburgers un peu chic, un peu de luxe, des restos de hamburgers, des burgers gourmets, on commence à voir apparaître le kebab gourmet aussi à Paris.
Alors effectivement, vous avez notamment celui qui vient d'ouvrir là, c'est l'un des, c'était le sous-chef du Chateaubriand, de Inaki Espitarte, qui était considéré deux années de suite par le magazine, je ne sais plus lequel, restaurant de quelque chose, mondial, qui était considéré comme le meilleur restaurant français, qui sort des grands classiques, c'était le Chateaubriand. Et son chef a créé Grillé cet été, qui fait un succès absolument dingue et qui est du kebab gourmet. Mais il y en avait déjà un il y a deux ans qui s'était créé, qui s'appelle Our Kebab. Donc on voit arriver le gourmet kebab, de même qu'on commence à voir le gourmet falafel, dans tous les domaines, il y a, le mass market, et puis il y a le sophistiqué. Là, on a mangé ce soir du shawarma sophistiqué, sans aucun doute.
Et on précise aussi que les mezés, eux, ont été cuisinés par Kamal El Mouzawak, donc le chef de la carriole des grandes tables. Donc là aussi, encore quelques spécimens qui ont survécu sur la table.
Avec Lagachon, puis Honorine Daudet qui voulait intervenir aussi.
Oui, si quelqu'un connaît un gourmet chichi frégi, ça m'intéresse. J'adore ça.
Alors là, c'est pas gentil pour le chichi frégi de l'Estac, mais enfin, on va transmettre. Honorine Daudet.
Non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, cette diversité qu'on est en train d'aborder, c'est ce qui du coup amène que les produits qu'on peut trouver en street food sont de plus en plus de qualité, et du coup, on peut faire un choix aussi. On se retrouve pas forcément qu'avec ce qu'on disait au début, des produits super gras et qui vont pas forcément nous satisfaire. Là, aujourd'hui, avec l'offre, finalement, on peut faire un choix, et même un choix qui est intéressant pour la santé. Donc, je trouve ça intéressant.
Alors, on va en reparler juste après ça, mais on voulait vous faire un petit clin d'œil sur le shawarma avec notre confrère Clément Barraud, qui donc a rédigé l'ensemble du feuilleton Street Food, qui se trouve actuellement au Liban, à Beyrouth plus précisément, et qui nous a fait un petit tour d'horizon de la cuisine de rue libanaise.
Dans la ville de Tripoli, au nord, on peut ainsi goûter le shawarma au poisson, et à Bourg Hamoud, le quartier arménien de Beyrouth, les shawarmas sont de saucisson. Il n'y a pas que le shawarma, dans le cœur des Libanais, on peut également citer la nehish, qui est une sorte de chausson composée de fromage, viande hachée, tomates, oignons et thym. Elle se mange à n'importe quel moment de la journée, y compris au petit déjeuner. La liste n'est pas exhaustive, sandwich au za'atar, ce mélange d'épices trempées dans de l'huile d'olive ou au labneh, un fromage frais qui se déguste à tous les repas. Cette street food libanaise, on la trouve partout, snacks, petites échoppes, vendeurs ambulants et même food truck. Depuis un an, le Toom Food Truck fait partie de la grande communauté des camions ambulants de New York. Il a même été sélectionné pour les Bendy Awards, l'équivalent des Oscars pour ce type de commerce. Comme on dit au pays du cèdre, certaines.
sartène qui signifie bon appétit. C'était notre confrère Clément Barraud, de très très loin, un son venu de très très loin depuis le Liban. Clément, dont vous pouvez toujours lire les reportages sur la street food marseillaise dans le feuilleton qu'Albert a consacré à ce sujet, www.chez-albert.fr. Frédéric.
Alors on va revenir dans l'Hexagone pour le coup pour parler de street food française. Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un plat de street food qui serait typiquement français? Est-ce que le jambon beurre, c'est l'alpha et l'oméga de la street food française, Honorine Daudet? Est-ce que c'est ça?
Je sais pas, peut-être, effectivement, le jambon beurre, pourquoi pas. Le pain bagnat aussi, quand même, à Nice, je sais pas.
Ah, mais là, c'est presque les Italiens, donc on est, ah ouais, on est à la limite.
C'est méditerranéen, dans tous les cas. La Méditerranée,
alors,
c'est tout ça.
Là-dessus, est-ce que nos invités ont une religion? Est-ce qu'il existe une street food française? Daniel Mazonchi hoche la tête, pas du tout.
Non, jamais.
De la vie.
C'est évident, si on prend la définition comme la street food, ce que l'on mange dans la rue ou ce qui est vendu dans la rue, qu'on mange en marchant, évidemment, le sandwich baguette, c'est forcément à l'origine cela. Clairement, le camion pizza, la pizza en camion qui est née donc ici en 62 à Marseille, c'est clairement de la street food française. Mais il n'y a pas de plat emblématique. Et aujourd'hui, ce qui est absolument extraordinaire, alors évidemment, le premier néo-camion qui est arrivé, c'est le camion qui fume à Paris, qui a fait du hamburger, tout simplement parce que Christine Frédéric est californienne. Elle est arrivée à Paris, elle a fait l'école Ferrandi, et comme beaucoup, elle s'est dit, bon, il faut que je trouve un restaurant, ça coûte cher, j'ai pas encore l'argent, je vais m'acheter un camion d'occasion, je vais le transformer, et j'ouvre, et c'est devenu du burger. Donc c'est vrai que compte tenu de ses chiffres d'affaires, de ses rentabilités, de son succès, de sa notoriété, on commence à voir dans chaque ville, généralement en France, le premier camion qui ouvre, food truck, c'est burger. Alors, mais très vite, il y a plein d'autres choses qui arrivent, on en reparlera tout à l'heure.
Alors vous, Fabien Augis, est-ce que vous avez fait un tour du côté de la Grande-Bretagne pour avoir eu l'idée de faire ce fish and chip marseillais? Parce que justement, il a quelque chose de particulier, il n'est pas complètement anglais.
Mais moi, je suis poissonnier, donc un burger ne serait pas été possible ou trop compliqué.
trop compliqué, c'est-à-dire techniquement, avec cuisson, chaîne du froid,
pas
tout ça
métier. Ouais. Pas son métier.
C'est pas le même métier.
À la base, je suis pas cuisinier, je suis poissonnier. Donc après, moi, mon idée, l'idée première, comment est né le fish and chips, c'est que je trouve qu'à Marseille, on est une ville au bord de mer et il y a personne qui mange du poisson. Je trouve ça hallucinant. Il y a pas grand monde qui mange du poisson et j'en suis sûr que s'il y avait des stats, je vais demander au monsieur en face parce qu'il en a pas mal. J'en suis sûr qu'on est une des villes à Marseille où on mange le moins de poisson. Donc mon idée à la base, c'était d'amener le poisson aux personnes. Et après, le plat en street food le plus simple à faire et le plus emblématique dans le monde entier, c'est le fish and chips. Donc,
on rappelle qu'à la base, le fish and chips, c'est du poisson, justement, qui
c'est
est
du
un poisson. Peu...
C'est, à la base, c'est souvent du cabillaud ou de l'aigle fin pané, avec leur panure à la bière, au malt, des frites et du vinaigre.
Alors, et vous, qu'est-ce que vous en avez fait?
Nous, la bière, oui, c'est bon, le vinaigre, c'est bien, les frites aussi. Mais après, à Marseille, déjà, quand on est minot, on mange du merlan. Moi, ma grand-mère, quand j'étais petit, elle me faisait toujours du merlan. C'est un poisson qui n'a pas d'arête. C'est quand même cartilage. On ne met pas du pané, juste on le farine. Donc, on a pris du merlan fariné. Les frites, c'est bon, mais je pense qu'à Marseille, les panis, c'est meilleur. Donc, on a mis des panis. Et plutôt que de mettre du vinaigre, on a mis de l'aioli. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait le fish and chips marseillais. C'est parce qu'il est 100% marseillais.
Alors, que ce soit la street food marseillaise, américaine ou française, au niveau de diététique, qu'est-ce que ça dit, Honorine Daudet? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop gras? Est-ce que c'est la façon de manger qui fait que ça peut être moins facile à digérer? Quel est le verdict?
Après, c'est vrai que la façon de manger, on dit souvent que de manger... En fait, il faut manger en ayant l'attention de manger. C'est-à-dire que si on mange en regardant la télé, même si on est dans son canapé chez soi, c'est l'acte alimentaire qui est important. C'est important de montrer au cerveau qu'on est en train de manger, qu'on apprécie ce qu'on mange, que c'est un plaisir et que voilà, ça fait partie aussi de la vie quotidienne. Si on mange effectivement tout le temps vite vite dans la rue en marchant, peut-être que là, ça, on dit que ça peut avoir des effets. En fait, finalement, c'est le cerveau qui capte pas très bien qu'on est en train de manger. Quoi. Et donc la satiété, elle serait différente. C'est le sentiment de ne plus avoir faim. En fait, il serait plus éphémère et ça passerait après. Et la faim, elle revient plus vite. Donc ça peut être un petit souci. Après, du coup, c'est si on prend le temps de manger, même si c'est de la street food, Parce que, enfin, on le voit, je veux dire, quand c'est l'heure de déjeuner en ville, on voit plein de gens qui se posent au bord des fontaines. Enfin, les jeunes à la sortie des lycées, ils se posent aussi pour manger. Enfin, c'est prendre le temps de manger ou de partager. Là, forcément, le message, il va plus passer au niveau de, au niveau du cerveau.
Donc, c'est pas forcément l'endroit où on mange, mais c'est la façon de manger. C'est-à-dire que si on est accoudé au comptoir du food truck, finalement, on peut être dans une bonne posture parce qu'on est vraiment concentré sur le fait de se nourrir, c'est ça?
Je pense, et puis du coup ça nous fait une pause, c'est ça qui est important. Après, c'est aussi dans le comportement alimentaire, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la street food, ça favorise la prise de repas, plus de prise de repas, manger plus souvent, ou est-ce que vraiment on continue de faire un vrai repas à midi? Peu importe la composition, là, on a un très plat dessert sur l'émission de ce soir, mais peu importe, c'est, si ça multiplie le nombre de repas, ça devient embêtant, parce que ça veut dire qu'on mange plus. Si ça reste notre repas déjeuner, et qu'il est diversifié, que ce n'est pas tous les jours le fast-food, justement, là, il y aura un intérêt.
En même temps, est-ce que la street food, la première de ses fonctions, ce n'est pas d'être bourrative, et juste déjà de caler l'appétit pour une longue période? Alors, je vois Daniel Majonchi qui nie avec
Daniel Majonchi, j'ai vu Sherazade qui a attrapé le micro plus vite. Alors ça a l'air de vous faire bondir, Sherazade. Non,
Honorodame. Non, pas du tout.
Alors,
après je parle pour le fish and chips en l'occurrence, parce qu'on fait ça et c'est ce qu'on fait, voilà. Vous mangez un fish and chips, déjà pour l'idée de satiété, il me semble que les portions sont suffisantes, donc ça vous fait un repas complet, certes pas très diététique, mais quoi qu'il en soit, on est sur du poisson frais, c'est fariné, c'est frit, mais si vous le goûtez un jour, vous verrez, il ne trempe pas dans l'huile. La panisse, je ne pense pas que ce soit non plus trop néfaste pour le corps, etc. Et en plus, personnellement, j'en mange à chaque fois. un plat me suffit, enfin en tout cas une portion me suffit, et je pense qu'elle suffit également à beaucoup de monde.
Donc, le fait de calibrer, vous voulez dire finalement, ça permet de contrôler un peu l'après. Oui, Honorine Daudet.
Alors, imaginons qu'on voudrait équilibrer le fish and chips, c'est possible. Tout dépend ce qu'on va manger avec. Ce qui est important dans l'alimentation, et là on l'a dans sur notre table, c'est aussi de manger des aliments divers, donc des crudités, des choses qui sont crues, des choses qui sont cuites, de la viande, des produits laitiers. Donc là on a le fish and chips. Si on se prend une petite salade de fruits, une petite salade en entrée, un petit fruit à croquer,
mais carrément, carrément. Après je dis pas de manger du fish and chips tous les midis, l'avantage c'est que justement on bouge dans plusieurs endroits, donc on n'est pas toujours au même endroit. Donc mangez pas des fish and chips tous les jours, même si c'est le nôtre, je pense qu'il y a suffisamment de choses et suffisamment de choix. On en parlait tout à l'heure, je trouve que les street food, en tout cas il y a pas mal de choses et très variées, et on peut s'amuser à manger des choses et on peut faire une semaine tout à fait équilibrée, il me semble.
Alors, Valentine, quelque chose là-dessus?
Non, j'allais de la dire une bêtise.
C'est pas grave, on est là pour ça.
J'allais demander si vous faisiez le super size avec la double panisse, la grande...
Tu en prends deux et c'est super size.
Alors, le super size, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une référence à une offre de McDonald's qui proposait un menu tellement énorme qu'un cinéaste canadien, je crois d'origine, avait fait un film autour de ça pour montrer l'impact sur sa propre santé d'un régime uniquement super size. Super Size Me, c'est un film. On n'a pas osé projeter d'image tellement c'est impressionnant.
Ouais, sur la fin, il n'était pas très beau à voir.
Oui, c'était assez répugnant. Daniel Majonchi, sur ces questions-là.
Effectivement, le Super Size Me, tout le monde en a parlé, sauf que c'est un malade mental, journaliste, forcément, alors c'est un pléonasme, qui a décidé pendant, je crois, 2 mois ou 3 mois de ne manger que du McDo. Donc forcément, il n'y a personne au monde. Alors, je crois que les règles, la base de la diététique, c'est de manger, on peut manger de tout, mais un peu. Voilà, tout simplement. Or, justement, la street food, on a parlé tout à l'heure de nos premiers souvenirs, mais l'un de mes derniers souvenirs, c'était l'hiver dernier en Thaïlande. C'est pareil quand vous allez en Chine. Vous avez, par exemple, les marchés du mercredi soir. Tous les habitants sortent devant chez eux et font leur plat, leur spécialité du jour. Donc on peut manger des œufs de caille, on peut manger des petites crêpes, on peut manger... C'est extraordinaire, donc on picore. Alors pourquoi est-ce que j'étais tout à fait en désaccord quand on pouvait imaginer qu'on allait bourrer en une seule fois? C'est qu'en fait, le seul vrai repas qui vous rend malade, c'est celui que j'ai connu quand je suis rentré dans ce métier en 71, où on mangeait l'entrée, c'était pas possible de pas en manger. Après, on mangeait le poisson. Après le poisson, on mangeait la viande ou le rôti. Après, on mangeait le fromage. Et après, on mangeait le dessert.
Et après, on allait dormir.
Après, parce qu'évidemment, c'était arrosé de 3 vins. le blanc, le rouge, et après, avant il y avait eu l'apéro, et puis après il y avait le pouce café. Heureusement tout a changé, puisque même dans les restaurants, on va dire, service à table traditionnel, aujourd'hui, il y a maximum, enfin le grand succès, c'est entrée plat ou plat dessert, point barre. Hein. Or, la nourriture de rue, par définition, on fait un achat que l'on doit avoir dans une seule main. Dans une seule main. Donc on ne peut pas vous mettre 400 grammes de produits dans une seule main. Et effectivement, tout ira très bien quand, et c'est ce qui s'est passé dans certains festivals qui commencent à venir dans des centres commerciaux, où on a 6, 7, 8 food trucks ou restaurations de rue diversifiées, et on va manger une entrée dans un coin, ou le plat, ou le dessert.
Mais ça, donc, on n'est plus aujourd'hui sur une uniformité aussi.
Sûrement
de
pas, c'est même au contraire
Valentine
la diversité. Laisse
sur ce qu'on trouve dans la rue aujourd'hui, c'est extrêmement varié, non ? Il y a plus, on n'est plus uniquement sur le shawarma tout à l'heure, ou sur la pizza, ou sur... Il y en a pour tous les goûts et tous les régimes, si je puis dire.
Oui, et même à Marseille. Enfin, par exemple, j'écoutais le reportage de Damien là, sur la cuisine libanaise. Tous les plats dont
Clément,
il parlait...
Clément, pardon,
excusez-moi. De Clément, tous les plats dont il parlait, c'est des plats qu'on trouve à Marseille. Il y a un petit Libanais sur la rue Sainte, là, qui s'appelle le Liban, hein, c'est ça ? Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah oui, la Brousse avait fait un dossier spécial là-dessus, dans son numéro 2 de mémoire.
On avait fait un dossier dans le numéro 1. C'était un spécial snack. Non, ils sont... Alors, Le petit traiteur libanais, ils sont malins parce qu'ils partent en vacances au Liban tout l'hiver. Et ouais, c'est ça, ils sont fermés l'hiver et ils réouvrent l'été. Et après, ils repartent au bled, ils vont faire des courses, ils vont tout ça profiter. Et ils reviennent à Marseille pour l'été.
Alors, c'est une bonne nouvelle.
Et oui, c'est super. Et c'est délicieux et c'est une cuisine vraiment authentique. Et c'est vrai que finalement, la cuisine de rue, c'est une des occasions qu'on a finalement de goûter la plus grande diversité ou les cuisines du monde entier. Ouais.
Alors justement, par rapport à ces cuisines du monde, comment est-ce que vous voyez l'adaptation de ces recettes qui viennent d'autres pays à la culture européenne ? Si on prend l'exemple du kebab, il y a des puristes qui estiment que le kebab a beaucoup perdu en abandonnant la viande d'agneau qui était jugée trop goûteuse en fait pour les palais occidentaux. Est-ce qu'il y a eu vraiment un affadissement de certaines recettes par rapport à ça? Je vois Honorine Daudet qui fait oui, effectivement, on a beaucoup perdu là-dessus.
Bah, c'est vrai que dans le kebab, effectivement, c'est, la qualité de la viande, elle est super importante parce qu'il y en a certaines qui sont du coup très très grasses parce qu'elles sont mélangées et puis elles sont coupées aussi. C'est pas toujours de très très bonne qualité et ce qui fait que on y rajoute beaucoup plus de gras que ce que pour avoir un morceau de viande normal à la base. Donc oui.
Alors, Daniel Majonchi.
Alors, pourquoi est-ce que l'on va vouloir importer des cuisines du monde ? En fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on organise donc ici, vous le savez, dans un mois, dans le cadre du Salon Resto Nouveau, le premier International Street Food Festival. C'est-à-dire qu'il y aura ici, à Marseille, au Dock du Sud, oui, une vingtaine de camions. Mais parmi ceux-là, une sélection d'une petite dizaine. Et on a hier, justement, dans le cadre de l'association, reçu les dossiers. Or, ces dossiers, évidemment, on a le fish and chips parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas être là. Mais on a, je vous cite quelques noms et quelques exemples de cartes qui ne sont pas du tout internationaux. Vous avez le bistruc. Alors, le bistruc, son idée, c'est ne faire que des produits français, d'artisans français. Évidemment, toutes les tendances de la restauration, c'est-à-dire des produits de saison, circuit court, labellisé, etc. Alors, quelques recettes. La polpette de la nonna, tagine Saint-Jacques de Montfraîche, pas mal. Vous en avez la Coralie's Kitchen, qui, elle, est aussi de Marseille. Alors, ils font des burgers maison. Donc, ça, on va dire que c'est presque du classique maintenant en France. Vous avez, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est Good Food. C'est Ameline et Jessica qui viennent de Cannes et qui sont aperçus. C'est marrant parce qu'à Paris, il y en a un qui a fait la même remarque. Tu as aperçu que l'éclair, la pâte à choux, c'est un produit qui, à l'origine, était salé. Or, c'est devenu un dessert. Et elles ont inventé dans leur camion, qui est un tube Citroën, pour le coup, elles ont par exemple la Mona Lichou. C'est de la chiffonnade de jambon de pays avec gorgonzola mascarpone. Vous avez un autre qui ouvre son... ça s'appelle le carré... C'est ça, le carré des gourmets. Et lui, c'est purement provençal, 100% provençal, avec du taureau de Camargue, de l'agneau des Alpilles, du porc de Ventoux,
pour
etc.
Pour le coup, on est dans le goût, on a presque
Exactement.
L'impression que c'est là où les chefs font leur marque.
Et c'est
quoi.
Ça, et voilà, c'est ouais. ça.
Frédéric.
Alors là, Renaud nous projette un tweet du magazine Slate.fr qui, pour ceux qui nous écoutent à la radio, je vous décris l'image, c'est une queue monstre devant une ancienne parisienne. Et c'est donc Drame du parisianisme, la première queue de l'histoire devant un kebab. Donc effectivement, à Paris, ça y est, on y est, le kebab devient hype, donc accrochons-nous, bientôt on va avoir ça à Marseille aussi.
Il y a des queues également devant le camion qui fume, le,
à Paris,
le,
oui,
fameux,
oui,
premier...
Enfin là, là c'est burgers américains, donc c'est moins inattendu.
Mais ça, ça, excuse-moi, mais ça c'est le... C'est le grillé qui a été fait par le second du meilleur cuisinier français.
Dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Et alors, je suis allé, moi, le premier jour. J'ai pas pu manger. Bon, pour une raison bien simple, c'est que le four, tellement il y avait de monde, a grillé, littéralement. Et on m'a interdit de rentrer. Et depuis, je n'ai pas pu y aller parce que faire trois quarts d'heure, une heure de queue, et notamment, c'est dangereux parce que vous le voyez sur le, au carrefour, on peut pas manger.
On peut se faire écraser.
Et ben voilà. Et ben voilà.
Alors, sur la question d'adapter des plats de l'étranger, on a vu. Des adaptations, certains diront des dérives, notamment par rapport aux sushis. On a fait des sushis au foie gras, on a fait des sushis avec des chips. Alors, bon, je vais dire personnellement que je trouve ça très bon, mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Est-ce que là, du coup, on n'est pas en train de dénaturer une recette qui a un certain intérêt diététique et puis gustatif?
Valentine,
moi, ma réflexion, elle était plutôt d'ordre lexicologique. Hein. C'est pourquoi, quand on parle de dénaturer, de dénaturer quelque chose d'étranger ou de national, c'est pourquoi on dit street food et pourquoi on n'a pas un mot français pour désigner ça. Enfin, je dérive un petit peu, mais toute la conversation, on parle de food truck, on parle de street food. On dirait qu'on est, c'est une réalité pour laquelle on n'a pas trouvé de mot en français ou pour laquelle où on ne peut pas dire cuisine de rue ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a l'air d'avoir un...
C'est vrai, essayons
là, je vois quelque chose.
Essayons de passer à cuisine
on
de rue.
On va aborder ce sujet en troisième partie puisqu'on va voir qu'il y a une grande tradition de cuisine française. Daniel Bajonchi sur cette question-là.
Non, ça, vous avez tout à fait raison. Hein. Street food, ça se traduit parfaitement par cuisine de rue. Food truck par carriole, donc c'est évident. Alors, c'est parce que nous sommes très snobs. Non, il se trouve tout simplement que, comme c'était dit dans un reportage... au préalable, en matière de style de vie, j'ai presque failli dire de lifestyle, de style de vie, on suit les Américains et que là-bas, c'est le street food. Mais c'est basique, c'est comme le marketing, sauf que nous faire appeler ça la mercatique, c'est un peu compliqué. Mais au final, c'est la même chose. Mais cuisine de rue, ça va parfaitement bien. Et carriole, c'est absolument parfait.
Alors, en termes... Ah, Sherazade, peut-être, non ?
Pour en revenir à ta question de dénaturer une recette originale, ou originale en tout cas... on pourrait dire en effet que nous on a dénaturé la recette initiale du fish and chips. Certains pourraient nous dire mais c'est pas ça le fish and chips, et d'ailleurs on nous le dit souvent, c'est mieux, pas comme ça, ça ressemble pas à ça, c'est quoi ça, c'est des panisses, on sait pas ce que c'est, etc. On peut partir d'une idée et c'est là que en effet intervient le talent d'un chef ou l'idée d'un Fabien et d'une Sherazade et voilà, entre autres de pouvoir en fait là on a rendu une recette certes emblématique anglo-saxonne, etc. On l'a mis au goût du jour, mais surtout au goût local. Quand c'est pas du merlan frit parce que c'est pas la saison ou qu'on n'en a pas parce qu'il y a du vent, ça va être un autre poisson de saison. Donc encore une fois, oui, on l'a dénaturé. Oui, c'est plus un fish and chips. C'est pour ça qu'on l'a appelé le fish and chips marseillais. Mais voilà, il y a une identité, il y a quelque chose, il y a du goût, les gens aiment. Après, on n'a pas voulu faire un fish and chips parce que justement, on sait pas le faire. Un vrai fish and chips anglais. Donc après, l'histoire de dénaturer, oui, il y a des kebabs qui dérivent, il y a des
sushis. C'est pas dénaturer, en fait, c'est réinventer.
Ouais, je pense que c'est plus réinventer que dénaturer. Après, si les gens aiment et si les gens le font bien, avec des bons produits et avec un amour pour le produit, je pense qu'il y a zéro souci, quoi. Après, on peut l'appeler comme on veut. Et
c'est
même
une émission sur les mots, ce soir.
Ouais, je pense.
Attention.
Alors...
Oui, c'est jingle tweet, Frédéric.
Ah bah mince,
il y a des tweets pour nous, mais peut-être après. Oui, Frédéric, non,
je ferai ma question après, c'est pas grave.
Alors Emmanuel.
On pouvait t'attendre, je voulais pas interrompre votre conversation, mais c'est vrai que nous avons deux questions sur Twitter de Bob l'ingénieur, mais après tout, c'est les questions qui recoupent ce que vous avez pu dire. Une première question, il s'intéresse sur le fait que l'UNESCO a célébré le repas à la française. Il se demandait, est-ce street food compatible ? Et puis une deuxième question est de savoir si le street food est compatible avec le slow food. Voilà, je vous rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réagir sur le hashtag cuisine au pluriel en friche.
Alors, concernant le repas gastronomique français, ça va être l'objet de notre troisième partie. Donc, on va essayer de ne pas empiéter sur la suite des événements. Mais effectivement, la question se pose carrément, et notamment au travers du livre blanc qui a consacré l'association sur street food. Concernant la question du slow food, alors là, on reste dans un vocabulaire anglais. Est-ce que quelqu'un autour de la table peut nous donner une définition précise de la slow food ?
Qui est puni ?
Alors, l'Agachon, en termes de marketing, peut nous dire ce que c'est de la slow food en avant.
C'est manger pas vite. Enfin, c'est pas du marketing.
Voilà, c'est simple, c'est précis, arabe, efficace. C'était l'Agachon.
Honorine Daudet, il n'y a presque quasiment plus rien à dire après la définition de l'Agachon, mais est-ce que vous auriez, vous, une définition plus précise de la slow food?
C'est peut-être ce qu'on discutait tout à l'heure aussi, prendre le temps de manger, prendre le temps de choisir les produits, où est-ce qu'on va manger, ce qu'on a envie d'en faire. Donc je crois que la slow food, c'est plus dans ce mouvement-là de faire un choix de connaisseur.
Et prendre le temps de fabriquer la bouffe lentement aussi. Prendre le temps de faire grandir ton poulet tranquillement, prendre le temps de choisir un poulet, prendre le temps de le cuisiner lentement aussi. C'est la lenteur dans la préparation.
Alors vous m'offrez une transition parfaite pour la dernière question que je voulais poser. Est-ce que le fait que justement dans beaucoup de food trucks on voit le plat être préparé sous nos yeux, c'est un facteur déterminant dans l'adhésion à ce type de cuisine? C'est-à-dire que par rapport aux inquiétudes sur la bouffe industrielle, etc., on est rassuré autant que possible de voir le plat se préparer sous nos yeux. Scheherazade ou Fabien?
Fabien Rougy.
Ouais, moi je pense que après on entend tellement de trucs sur les restaurants, et c'est vrai que quand vous voyez pas les cuisines, moi j'aime bien regarder les poubelles souvent, je trouve que c'est parlant. Je sais pas, moi je sais que même à la poissonnerie, vous voyez la cuisine, et la première poissonnerie qui était tout à l'heure à l'image, je voyais la cuisine, vous voyez la personne qui travaille le poisson, vous voyez la personne qui ouvre les huîtres. C'est assez important, ouais. Ça fait partie de A à Z. Comme quelqu'un qui vous sert, qui vous amène les verres et qui vous voyez déboucher la bouteille, ben, je pense que plus vous en voyez sur ce qui va arriver dans l'assiette, mieux c'est. Donc les camions, c'est très bien pour ça, puisque vous êtes en direct.
Alors, Daniel Majonchi, juste avant qu'on passe à la troisième partie.
Très simple, hein, le mouvement slow food est né en Italie par réaction au fast food. C'est pour ça qu'il s'appelait slow food. Mais derrière slow food, il n'y a pas que la lenteur de la préparation. À la base, c'est quoi? C'est de dire, on ne devrait servir dans des restaurants que des produits de saison. Des produits locaux, on appelait ça encore locavore il y a quelques temps, maintenant on appelle ça les circuits courts, des produits frais, des produits d'artisans, etc. Or, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui les camions ou les carrioles, pour la plupart, ceux qui naissent aujourd'hui, respectent complètement ce genre de démarche. Donc la street food et le slow food sont totalement compatibles.
Alors, on va faire une brève pause musicale avec Mathieu Herbert. Mathieu Herbert qui va jouer tout à l'heure au cabaret aléatoire. On écoute un de ses morceaux qui s'appelle Industrialized Chicken. Thank you.
émission transmédia avec Chez Albert de 20h30 à 22h en public et en direct des grandes tables à l'occasion de Cuisine en Friche.
Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Pour 95% des Français, le repas gastronomique est un élément essentiel de leur patrimoine et de leur identité. Le repas gastronomique est pour les Français une pratique sociale ritualisant le plaisir d'être ensemble.
L'accordéon, une mamie qui fête ses 250 ans de la poussière sur le coin de l'écran. Attention, contrairement aux apparences, cette vidéo que vous venez d'entendre ou de voir aux grandes tables de la Friche Belle de Mai date bel et bien de 2010. C'est ainsi qu'a été présenté le repas gastronomique français au moment de son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Lui, il fait partie du patrimoine d'Albert, c'est l'Agachon. C'est à vous, très cher.
Oui, bah, franchement, Albert, c'est pas facile d'écrire sur la cuisine de rue, donc. On a beau l'expérimenter tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, parce que bah, moi c'est comme Valentine, c'est plutôt la nuit que j'attrape un truc en passant, comme ça entre deux bars, histoire de prolonger l'apéro. On a beau donc être croyant et pratiquant de la street food, avoir son camion à pizza préféré et tout, et bah, c'est pas facile d'ouvrir un Word et de pondre 2 minutes 30 sur le sujet. Peut-être que je suis tellement dans le chichi frégis jusqu'au cou que je peux même plus prendre de recul. Ou alors c'est qu'il y a trop de sujets, trop divers pour être traités ensemble dans une seule chronique, et beaucoup trop alléchants pour en abandonner un seul. Au début je voulais faire du copinage. Ouais, je suis comme ça moi. J'ai dû bosser au conseil général dans une autre vie, parce que dès que je peux faire bosser un collègue, j'hésite pas. J'allais donc donner mes bonnes adresses. Puis après, je me suis dit, non. Comme tu parles sur la troisième partie de l'émission, sur le moment intello, enfin, je pense que c'est ça. Hein,
ouais, c'est carrément ça.
C'est ça. Voilà, bon, alors je me suis dit, profites-en pour épater la galerie, parle de la dimension politico-sociale de la street food. Il y a des gens intelligents autour de la table, c'est l'occasion rêvée de montrer que tu n'as pas qu'un physique. Alors tout y est passé, la fonction sociale du kebab, l'approche post-moderniste de la 4 fromages. Bon, j'ai écarté tout de suite l'impact de la panisse sur la satisfaction estivale de la consommatrice estakéenne. C'est trop controversé d'un point de vue méthodologique. Non, on n'a pas d'échelle fiable, c'est dommage, mais bon. Et à l'intérieur de tout ça, une question m'est apparue, une évidence, l'expression de la méditerranéité par la street food. Parce que finalement, ce mot street food, il est anglais par accident, c'est pas possible, la street food. Le marseillologue que je suis fait l'hypothèse ici que c'est diablement méditerranéen. Comment envisager la vie dehors sans la bouffe qui va avec? À quoi ressemblerait la promenade du soir sans la glace? Ou la soirée en bord de mer sans la pizza? Ça serait quoi le J4 sans le chariot magique tout en musique et son thé à la menthe avec ou sans pignon? Et pour finir, en combinant copinage et méditerranéité de la street food, un petit mot sur les copains du off et leur Marseille 2013 capitale européenne de la merguez, qui tourne autour de cette idée que la merguez est le seul truc capable de faire l'union pour la Méditerranée, le symbole qui met tout le monde d'accord, le truc que tous les Méditerranéens partagent, il n'y a pas plus bouffe à tous les râteliers que la merguez, le truc qui peut être halal et cachère, qu'on retrouve aux grèves de FO et au barbecue sur la corniche, qui peut mettre d'accord les pieds noirs du FN et les snacks de la canebière. La merguez, c'est formidable. La merguez, c'est la street food de chez nous. La merguez, c'est la Méditerranée. Que dis-je ? Piquante comme notre esprit, populaire comme nos centres-villes, lumineuse comme notre ciel, grasse comme notre parler et dorée comme notre peau l'été au soleil. La merguez, c'est nous. La merguez, c'est vous. La merguez, c'est la Méditerranée retrouvée, la Méditerranée rassemblée. Votez merguez, vive le barbecue et vive la merguez libre.
Ouais. Ah, bravo.
C'est l'UPM, l'Union pour la merguez. Je crois que le slogan est tout trouvé.
Ça y est, on est, la campagne est lancée. Merci Lagachon. Tu vois, tu n'es pas seul.
Un hommage sur la merguez.
Mais tu n'es pas seul. La merguez, c'est capital et tu as été entendu ce soir. Mais alors, à défaut de merguez sur notre table, on va passer directement au dessert. On a déjà presque plus de raisins. Il nous reste une figue. Allez-y. Au menu de nos débats, les effets de cette nouvelle tendance street food sur nos pratiques alimentaires. Alors, si le film de l'UNESCO a des accents un peu caricaturaux, le repas à la française pourrait être l'un des freins au développement de la street food en France, Frédéric.
Alors, c'est ce que semblent dire beaucoup de critiques gastronomiques et l'association Street Food en Mouvement, à laquelle appartient Daniel Majonchi, ont fait plusieurs articles là-dessus, sur le fait que cette tradition du repas français assis, partagé à plusieurs, avec au moins deux plats, effectivement, c'est un des freins qui empêche les food trucks et les différentes formes de street food de se développer. Est-ce que c'est vrai? C'est faux? votre avis, alors Daniel Mangenchi a déjà saisi le micro.
Oui, c'est faux, hein, je termine la fille qui restait, je viens de manger.
Mais c'est non, fou, c'est vous l'écrivez faux. Dans votre livre oui, blanc
mais,
pourtant.
Mais quand même, bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est justement pour faire bouger les lignes. Ah. Alors, on va dire que le repas gastronomique à la française, inscrit, etc., à l'UNESCO, allez, on a figé tout ça, c'est un peu la comédie française. Et la street food, qui vient juste après, mais qui a la même chose que la fast food, quand j'ai les premiers fast food, c'est un gars du midi, il a dit la fast food, je ne sais pas ce que c'est la fast food. Et bah, nous, la street food, c'est un petit peu le café-théâtre, le théâtre de boulevard, le théâtre populaire. C'est complètement... Ça peut vivre en parallèle sans aucune espèce de problème. Ce qui est le frein aujourd'hui, et c'est une des raisons pour laquelle on a constitué il y a à peine plus d'un an cette association Street Food en Mouvement, c'est pour faire comprendre aux municipalités qui avaient très peur, parce que pour un maire, quand on vient lui dire « je veux ouvrir un restaurant sur la voie publique », qu'est-ce qu'il voit immédiatement ? Des merguez, effectivement. Ah, ah. Et voilà, et voilà.
Même si c'est,
voilà,
alors,
même si c'est bien. Des baraques à frites si c'est dans le nord, des camions à pizza, etc. Et il dit, bon, bah, et ça fait de la concurrence aux restaurateurs.
Alors là-dessus, on va en revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure avec l'interview de Martine Vassal, adjointe au maire. Je voudrais juste embrayer sur une autre dimension dont on parlait tout à l'heure. La question de la pause du midi, alors du coup, à la française, où on est assis, etc. Honorine Daudet, peut-être sur ce sujet-là, est-ce que ça aussi, ça évolue ou est-ce que malgré tout, ça reste quand même une constante? On préfère manger assis, à plusieurs?
Après, il y avait donc dernièrement, je regardais donc un peu des études qui montraient que ben, dans le dernier baromètre santé, il y a un chiffre qui disait qu'encore un tiers des consommateurs mangeaient à l'extérieur pour le déjeuner, et encore plus en PACA. Où du coup, par rapport à ce chiffre français, il était plus important en région PACA, donc ça veut dire qu'on mange plus à l'extérieur, enfin sur la pause du déjeuner. Après, est-ce qu'on prend le temps de manger assis ou de manger plus rapidement? Ça dépend un petit peu de chaque catégorie enfin, socio-professionnelle. Est-ce qu'on peut trouver aussi l'offre qu'on peut avoir là où on se trouve, etc. Mais en tout cas, la pause méridienne, elle reste très présente. Et donc, tout le monde la prend, en tout cas, ça c'est sûr.
Après,
ça ne veut pas dire qu'on mange moins sainement. Par exemple, en Angleterre, où les gens sont les spécialistes de bouffer devant leur ordinateur comme des malheureux, en Angleterre, on peut acheter des soupes pour déjeuner, des super bonnes soupes de tas de variétés différentes. Et c'est vraiment une variété. Il y a même des bars à soupe, des camions à soupe aussi dans la rue, des trucs comme ça. C'est quelque chose de très sain, bon, qui a été après absorbé dans une façon de s'alimenter qui est pas très conviviale et qui est pas très pas très joyeuse. Mais en tout cas, on peut se faire une bonne soupe de carottes devant son ordinateur, quoi.
Mais d'une manière générale, quand même, le repas entrée, plat, dessert tend un petit peu à s'effacer. Il y a des études qui montraient que, en fait, très souvent, on va souvent faire un plat unique où on va peut-être mettre l'entrée et le plat principal dans une même assiette. Et du coup, l'entrée ou le hors-d'œuvre peut être petit à petit un petit peu effacé, même au sein des familles, même si on mange chez soi, quoi. C'est petit à petit.
Oui, parce que on vous épargne, je l'avais sorti, mais je me suis dit, je ne vais pas vous faire souffrir avec ça, la définition par le gouvernement français du repas gastronomique français inscrit à l'UNESCO, c'est excessivement codifié et très très long. Donc effectivement, le repas...
On la mettra en ligne
pour ceux qui ont le temps, mais le vrai repas gastronomique, c'est très très long. Et puis il y a même toute une organisation de la table qui est très codifiée. Alors les mets sont laissés à la libre disposition des autres, et c'est gentil, mais le reste est très codifié, donc effectivement on retrouve quand même un petit peu ça dans la pause de midi. En plus de cette façon de manger, il y a aussi la question cruciale pour les street food de l'emplacement, le lieu où on va vendre, et sur cette question on écoute Martine Vassal qui est adjointe au maire de Marseille.
Pour les pizzaiolos, c'est la même idée que ce qu'on a par rapport au street food, c'est-à-dire par rapport au marchand de glace, c'est-à-dire ne pas mettre devant le marchand qui est en pied d'immeuble une concurrence directe. Parce que c'est vrai que c'est facile pour quelqu'un qui a de la vente emportée avec un camion, il se déplace rapidement, il va chercher le client là où il est. Donc il faut lui laisser un périmètre, mais pas un périmètre au désavantage du commerce existant. On travaille en collaboration étroite avec la Fédération des pizzaiolos, qui est garant aussi de la qualité du pizzaiolo qui nous est fourni. Parce que nous, nous ne sommes pas capables de pouvoir savoir si le pizzaiolo qui va s'installer a tous les critères de qualité. Et c'est un peu la problématique que l'on retrouve sous les food streets aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aimerait, c'est surtout avoir un très bon critère de qualité.
On vient d'entendre Martine Vassal, adjointe au maire de Marseille, en charge de l'espace public, des emplacements et de la gestion urbaine. Alors j'imagine que vous souhaitez réagir, Daniel Majonchi. Je rappelle que l'association Street Food en Mouvement veut justement tenter de faire le lien entre les restaurateurs et les institutions.
Alors, tout à fait. Il se trouve que nous avons adopté, pas plus tard qu'hier, notre charte de qualité. Et par exemple, dans cette charte de qualité, celui qui adhère à l'association la signe. Une fois qu'il l'a signée, il reçoit son gros sticker, son label, comme on le trouve d'ailleurs sur les marchés de Thaïlande. Il y a des stands avec label et d'autres sans label, c'est assez bizarre. On choisit ça. Et notamment dans l'engagement, je suis en train de le relire, dans l'engagement numéro 3, il y a 4 sous-engagements. Et le 3-2 dit « Je m'engage, moi, streeter, à respecter une concurrence loyale en matière d'emplacement, de distance aux autres commerces de restauration et d'attitude commerciale. » Et il se trouve que parmi les administrateurs de cette association, les membres fondateurs, on a le syndicat Sinorcat, qui à Paris est le syndicat ultra-majoritaire pour les restaurateurs. Or, le syndicat des restaurateurs soutient le mouvement Street Food pour une raison très simple, c'est que j'ai en face de moi un restaurateur qui est devenu streeter, et le camion qui fume, qui était streeter l'année dernière, est devenu depuis fin août, restauratrice, c'est-à-dire qu'elle a pu s'acheter son restaurant en dur grâce à ce qu'elle avait fait. Donc il n'y a absolument pas d'incompatibilité, sauf qu'effectivement, il faut respecter tous les engagements quand on est restaurateur de rue. On doit respecter toutes les normes d'hygiène, les formations à l'hygiène, les formations au permis d'exploiter, etc., que quand on est sur un espace privé, on fait globalement, c'est le propriétaire du parking, du cinéma, de la boîte de nuit qui fait ce que l'on veut. Et par contre, quand on est sur l'espace public, on doit respecter les règles de l'espace public comme une paillote en bord de mer.
Alors là, tout le monde est en train de lever la main, donc on est en plein débat, c'est parfait.
Fabien Rugy avant tout,
qui est restaurateur et qui s'est lancé dans une expérience food truck.
Vous avez les deux casquettes.
Vous avez les deux casquettes, donc le côté concurrence.
Après, moi, le côté concurrence, ça me gêne un peu, moi. Moi, ça me gêne. Le côté concurrence, il me gêne parce que je pense vraiment que sinon, il n'y aurait pas des hôtels, une étoile et trois étoiles à côté. Je pense que quelqu'un qui vient chez moi, au resto, il va pouvoir, si j'avais le camion sur le même trottoir, même si c'est pas que c'est le même propriétaire, il va pouvoir aller au resto un jour et au lendemain au camion. Faut arrêter de croire, honnêtement, si demain je mets mon camion devant un restaurant et que ce restaurant est vide et que notre camion il est plein, plutôt que de se dire que c'est le camion qui devrait pas être là, je vais dire ça comme ça, il ferait mieux de se dire peut-être que c'est lui qui fait mal quelque chose. Et ça c'est un truc tout con, mais moi, j'ai un restaurant, j'avais un tout petit restaurant, j'avais un placard. Mais sérieux, j'avais un placard à Marseille et j'ai réussi à faire venir du monde. Après, le truc qu'il y a, c'est... Je crois pas qu'il faut arrêter de dire à chaque fois c'est à cause de lui, c'est la concurrence déloyale. Parce qu'après, si demain, comme vous avez dit tout à l'heure, dès qu'il y a quelqu'un qui a 4 sous de côté, il ouvre un restaurant. Si demain, quelqu'un, il va avoir 2 sous parce que ça coûte un peu moins cher, il va ouvrir un camion. S'il est aussi mauvais que certaines personnes qui ouvrent des restaurants... Mais il va prendre une tôle, pareil. Alors ça sera un peu moins gros, parce qu'il aura moins investi, mais il la prendra quand même.
Alors, Honorine Naudet, sur cette question-là.
Non, mais en fait, cette charte, ça me faisait vraiment réagir sur le fait que ceux qui se lancent dans l'aventure street food, ils sont vraiment du coup soumis à des exigences que certains restaurateurs, là je parle à titre personnel, ne respectent pas du tout. Enfin, je veux dire, combien de fois on dit à Marseille, on va dans les restos qu'on connaît, parce que franchement, sinon on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et tout à l'heure, vous parliez de cuisine ouverte qui se fait de plus en plus, parce que on a besoin de retrouver la confiance quand on va au restaurant. Et là, je parle vraiment de la qualité de ce qu'on va manger, d'en avoir pour son argent. Et du coup, là, je trouve que vous mettez le paquet, mais du coup, c'est presque pour vous de la concurrence déloyale pour les streeters.
C'est toute la question des labels faits maison dans les cuisines qui est en intense discussion actuellement au niveau du gouvernement. Scheherazade, je voulais réagir.
Je ne suis pas restauratrice, mais je suis streeter le soir, puisque j'ai un autre métier la journée. Streeteuse, pardon. Que dis-je ?
Féminisons.
j'ai un autre emploi la journée et je travaille dans le centre-ville. Et je mange, je déjeune tous les midis dans le centre-ville.
Très honnêtement, déjà, je ne vais jamais dans le même restaurant tous les midis. Déjà parce que j'aime bien, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, varier un petit peu. J'aime bien découvrir de nouvelles choses aussi. Donc, dès qu'il y a un nouveau resto, ben, hop, j'y vais. Et tout simplement parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le même lieu tous les midis. S'il y a un camion qui fait du kebab, du fish and chips ou quoi d'autre, encore plein de choses encore géniales qu'on peut trouver dans les food trucks, honnêtement, c'est pas ce qui va m'empêcher d'aller dans le resto habituel. Je vais aller, comme disait Fabien tout à l'heure, dans un street food peut-être un jour et retourner dans mon resto fétiche le jour d'après, etc., etc., etc. Enfin voilà quoi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il faut bien faire les choses, que ce soit, qu'on soit restaurateur ou streeteur ou streeteuse.
Alors, Lagachon qui applaudissait à tout rompre tout à l'heure.
Oui, non mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que Fabien a dit. On peut, on pourrait dire comme ça, la meilleure des concurrences, c'est pas celle qui est déloyale, c'est celle qui est bonne. Si le camion il est meilleur, ben, il y aura plus de monde. S'il n'est pas bon, il n'y aura personne. Et il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit que celui qui est en face, il pique des clients. Soit on se dit que plus il y en a, plus il y a de gens vont venir, qu'il y aura des clients pour tout le monde. Et il n'y a rien de plus triste qu'une rue sans rien ou avec un seul endroit. Alors qu'une rue qui est pleine de restos, il y a tout le monde qui va y aller. Et tout le monde trouvera, tous les restaurateurs trouveront leurs clients.
Enfin, alors, les bons. On voit actuellement à l'écran des images... du fish and chip avec à la fois les produits et les artistes. Ah, c'est la poissonnerie, autant
pour
nous. C'est la poissonnerie pour le coup.
Voilà le camion.
On voit le camion, le fameux tube qui est là, vraiment l'historique pour le coup. Ouais, ouais. Alors, on va embrayer sur ces questions justement à la fois économiques et concurrentielles avec un petit extrait de l'interview de Luc Garcia, le président de la Fédération nationale des artisans pizza, camion pizza.
Si vous partez avec 30 000 euros d'investissement, que vous avez déjà la moitié de la somme, que vous avez un tout petit prêt qui va avec, si vous partez sans frais, c'est vite fait, avec 20, 25 pizzas, ou 30 pizzas, vous en avez assez pour vivre, pour démarrer votre activité. Si vous partez avec des camions qui valent 100 000 euros, 130 000, 150 000 euros, vous êtes obligé après de faire du chiffre. Si vous commencez à avoir un service de livraison qui ne correspond pas au camion à pizza, enfin, il y en a qui le font, bien entendu, mais si vous commencez à avoir des personnels que vous prenez des charges, c'est pas l'âme même du camion. Et l'essence même du camion à pizza, c'est le pizzaïolo dans son camion, bien souvent avec son épouse, voilà.
Alors, c'était Luc Garcia, donc de la Fédération des camions pizza. Frédéric, c'est à toi.
Alors, justement, est-ce que là, on a un peu deux tendances qui s'affrontent. D'un côté, la tendance, justement, pizzaïole, où le camion peut être le premier pas vers un restaurant traditionnel. Et puis, ce que vous avez fait, vous, Fabien Sherazade, qui est le restaurant, et puis ensuite, au passant le camion. Alors, Valentine, vous voulez réagir là-dessus, non? Ah non, je me suis trompé.
Pas spécialement. Elle voulait une fille, peut-être.
Ouais. J'étais encore émue par tous ces mots là sur l'amour, le pizzaiolo et sa pizzaiolette, les streeteurs, le streeter et sa streeteuse dans leur camion.
Mais là,
plaisir.
Pour le coup, ce que vous vivez tous les deux, c'est assez proche de l'histoire du pizzaiolo et de sa dame qui gère l'affaire ensemble, finalement. Est-ce que...
On farine le Merlin aussi, pareil. Y a de la
c'est
farine.
Ça, pareil, quoi.
Non mais alors, sorry, moi je voudrais juste demander à Daniel Majorchi un mot sur la réglementation. Donc on a entendu Martine Vassal tout à l'heure. Dans d'autres pays, je crois que justement les barrières sont tombées récemment. Vous parliez du Canada tout à l'heure.
Je parlais même plus précisément de Montréal, où effectivement la municipalité était extrêmement stricte jusqu'au printemps dernier. Il était interdit de faire ce qu'ils appellent en québécois authentique, de faire de la bouffe de rue. C'était totalement interdit et durement réglementé et verbalisé. Et puis le maire de Montréal a vu ce qui se passait aux États-Unis, et notamment à New York, c'est vraiment à côté. Il a dit, mais en fait, j'ai quelque chose d'assez extraordinaire peut-être dans ma ville que je rate. Et il a pris des décisions municipales. Il a dit, maintenant, j'ouvre mes rues. Alors, dans un premier temps, quelques impasses Dead End Street pour des festivals. Et vu le succès, donc beaucoup de restaurateurs, on va dire, connus, branchés, de tradition, ont ouvert leurs camions. D'autres se sont mis à faire des camions. Et en quelques semaines, et d'ailleurs, on aura le témoignage du président et de la vice-présidente de l'association de la bouffe de rue, c'est comme ça qu'elle s'appelle là-bas, qui viendra à Marseille pendant le salon Resto Nouveau, et notamment notamment qui remettra aussi les prix avec quelques grands chefs dont on vous réserve la surprise, des premiers street d'or, street d'argent, peut-être que vous y serez cher Fish and Chips. Et c'est un gros succès. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un autre phénomène, un épiphénomène. À New York, d'emblée, le maire avait voulu mettre de la restauration de rue. Il y en a partout, mobile ou pas mobile, hein, des containers qui sont posés. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, même pas, un an et demi, il y a un attentat qui a été évité. On a tous vu les vidéos d'une voiture qui était par le FBI, et on sortait des bombes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un streeter a repéré une voiture un peu suspecte qui se garait là où il ne fallait pas, et le conducteur partant. Donc immédiatement, il a appelé la police, il a dit « il y a un truc bizarre », et ils ont évité probablement des dizaines de morts. Donc du coup, ça fait réfléchir
un certain nombre de vies. C'est bon pour la sécurité aussi.
C'est bon pour la santé.
C'est le street fighting man.
La bouffe de rue, c'est bon pour la santé. Alors voilà, il est temps de passer au tweet du public, Emmanuel.
Merci Stéphanie. Effectivement, quelques petites réactions, questions du côté du hashtag Cuisine en Friche. Alors une question de Caroline Delabroix qui pose la question de savoir si la cuisine de rue est appelée à être un phénomène qui va durer, ou s'il s'agit simplement d'un phénomène de mode, finalement d'un épiphénomène. Et puis il y a S. Astien qui dit « Mais depuis tout à l'heure, on ne parle que de street food gastronomique et quid de la street food pas chère, de la street food pour le pauvre, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver avec le maïs grillé. » Et puis une question qui m'est arrivée par SMS, qui dit « Mais avec la street food, fini le banquet avec la street food, par exemple comme cette grande table ?» Voilà.
Alors, on a parlé du shawarma en début d'émission. Hein. On n'a pas parlé que de grande gastronomie. Enfin, il était bon, c'est vrai, mais bon.
On va peut-être se tourner vers Valentine Las de la Brousse pour parler justement street food accessible.
Dernière intervention.
À tout le monde, la street food, majoritairement, ça reste plutôt pas cher, accessible au très grand public.
Par exemple, enfin, je sais pas, avec le premier numéro de La Brousse, on a frappé fort, on a fait la carte mondiale des camions à pizza marseillais pour rendre accessible au plus grand nombre tous les camions, les différents camions à pizza qu'on trouvait à Marseille. C'est vrai que la part de pizza au camion, c'est quoi? C'est 2 euros une part de pizza fromage ou anchois, 2-3 euros?
Oui, c'est ça, ouais,
2 hein ouais. euros. Et voilà, c'est vrai que finalement, ça reste la forme d'alimentation la plus accessible.
Fabien Rogier, vous voulez une dernière réaction?
Après, le truc qu'il y a, c'est de savoir ce que vous mettez dans votre assiette. C'est sûr qu'une pizza à 2 euros, moi, en travaillant du poisson frais, à 2 euros, ça va être très, très, très difficile.
Il est sur combien, il est à combien le fish and chip?
Nous, on varie entre 5 et 7. Mais ça nous arrivait aussi de faire à 4, par exemple, quand c'est la saison des anchois.
On est quand même très loin du plat à poisson dans une assiette, quoi. Donc ça reste quand même très accessible.
Ah ouais, non, mais le but du jeu, c'est d'être accessible. On descend dans la rue, donc il faut être accessible, ouais, c'est certain.
Alors, cette émission se termine bien que la soirée continue à la Friche, avec du boire, du manger, du son. Avant de débarrasser le couvert, quelques conseils de lecture et autres amuse-bouches, Frédéric?
Alors, déjà pour vous conseiller le livre consacré aux grandes carrioles de la Friche, enfin aux grandes carrioles de 2013 surtout. C'est un bouquin texte-photo qui est vraiment très très beau, donc on vous mettra les références en ligne chez Albert. Je vous conseille aussi la lecture du rapport de l'OMS qui date un petit peu, qui est de 96, sur la street food, mais qui pose aussi les enjeux au niveau mondial de l'alimentation de rue qui reste une des principales sources d'alimentation dans le monde. Je renvoie aussi vers le livre blanc de l'association Street Food en mouvement que Daniel Majonchi représente ce soir. Je vous renvoie aussi vers deux articles de Télérama consacrés à la street food, notamment une interview du chroniqueur gastronomique de France Inter, et je ne peux pas m'empêcher de vous renvoyer vers un article de Brain Magazine consacré à Kaiser Mehmet, le créateur ou pas du kebab, dont on ne connaît pas exactement ni l'identité ni le destin. Comment est-il mort? Comment a-t-il vécu? D'où vient-il? Qui est-il? On ne sait toujours pas. C'est passionnant. Voilà. Donc, si vous avez d'autres références, est-ce que quelqu'un a envie de nous conseiller des lectures? Valentine.
Il y a un super article qu'on avait cité dans La Brousse qui est écrit par une fille qui est chercheuse de sociologie ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Florence Bouillon et qui a écrit un super article dans les cahiers de recherche urbaine sur les snacks égyptiens à Marseille, où elle parle du rôle à la fois alimentaire, social et culturel des snacks et de la cuisine de rue, et c'est super intéressant.
Alors nous y voilà, c'est déjà terminé. On va continuer, nous, à débattre à la Friche de la de Lemay. Mais un grand merci déjà à tous nos invités qui ont accepté l'invitation d'Albert ce soir. Merci Valentine Leys. On retrouve la liste des points de vente de la revue La Brousse sur le net à l'adresse suivante, www.weshlabrousse.tumblr.com. Merci à vous Fabien Ougy, merci Sherazade. La prochaine sortie du camion, est-ce qu'il y en a déjà une de prévue dans les jours à venir? On peut consulter en tout cas les prochaines sorties sur.
Non, on n'est pas à jour.
Alors bon, mais vous le saurez. On les mettra sur. Non, on les mettra sur
Marseille. Le 29 septembre au parc Borély, le vélo tour.
Voilà, le 29 septembre, c'est noté. Merci à Honorine Daudet. On va donner l'adresse internet du CODES, www.codes13.org. Je rappelle que vous avez également des ateliers cuisine où justement vous faites découvrir les goûts en un mot.
Bah, autour de l'atelier cuisine, un petit peu comprendre que c'est facile de manger équilibré. Donc c'est des petits ateliers sympas et surtout savoureux et sains.
On mettra les coordonnées sur le site d'Albert également. Merci également à vous Daniel Majonchi. Alors on rappelle que le Festival international de street food se tiendra le 14 octobre au Dock des Suds à l'occasion du salon Resto Nouveau qui réunit lui les professionnels du secteur. On trouve toutes les informations sur le site de l'association streetfoodenmouvement.fr, les références également sur le site d'Albert. Un grand merci aux équipes des Grandes Tables et de la Friche Belle de Mai qui nous ont permis de réaliser ce projet d'émission. Merci à la Carriole des Grandes Tables pour ses mezés cuisinés par Kamal El Mouzawa, qui n'en reste plus beaucoup sur la table. Rappelons que Cuisine en Friche se poursuit jusqu'à dimanche. Il y aura encore des repas, des débats. Consultez la carte complète sur www.lafriche.org. Inclinons-nous devant Renaud Verset, l'homme qui murmurait à l'oreille du web. Big up à Seb, notre master of ceremony, et à Jean-Baptiste, son acolyte. Big up à Frédéric et Emmanuel qui nous ont assistés également ce soir avec leurs interviews, leurs questions. Merci toi à Julien et Bastien qui nous ont concocté tout au long de la semaine un savoureux Tumblr sur le thème de cette émission. Ça s'appelle Cuisse de grenouille et vous le trouvez encore à l'adresse suivante, cuisse au pluriel de grenouille.tumblr.com. C'est savoureux, allez-y. Respect total à toute l'équipe de la Grenouille en général et à Nelly Fleischer et à Jérôme Météo en particulier. Et merci à Fabien Yazin, nos partenaires, sur ce projet. Vous pourrez également réécouter cette émission très prochainement sur nos sites respectifs, celui de Grenouille www.radiogrenouille.com et celui d'Albert www.chez-albert.fr, où vous retrouverez également tous les épisodes du feuilleton Sur les pavés la bouffe, écrit par Clément Barrault, que l'on embrasse et que l'on remercie mille fois. Frédéric, oui? Ah ben non, alors il y a plein d'autres choses à voir chez Albert. La saison 3 démarre à la fin du mois. Vous retrouverez notre module audio pour les enfants, mais aussi Antipop, le podcast Rêver des geeks. Début octobre, c'est un nouveau feuilleton qui sera mis en ligne autour des saisonniers agricoles. Venez donc nous rendre visite, vous inscrire à notre newsletter pour suivre notre actualité et pourquoi pas offrir le café à l'ami Albert et l'aider ainsi à continuer son histoire. On revient évidemment le mois prochain sur Grenouille pour de nouvelles aventures. Il est temps de débarrasser la table. Cuisine en Friche continue avec le concert de Mathieu Herbert. Sur Grenouille, c'est aussi lui, puisque c'est son interview réalisée par Stéphane Galland. À très bientôt et n'oubliez pas l'information, mangez-en. Salut.